Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales sur la chaîne de l'Armée de l'air et de l'espace. La chronique du CESA a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Clément Adair sur un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi, une musique de l'adjudant Christian Caligaro et avec la voix de François-Éric Gendron, colonel de la réserve citoyenne. L'Éole perd terre. Le 9 octobre 1890, dans le parc du château d'Arminvilliers au sud-est de Paris, l'Éole, un engin volant motorisé mis au point par Clément Adair, s'élève de 20 cm au-dessus du sol sur une distance de 50 mètres. À l'époque, pour la première fois au monde, un plus lourd que l'air réussit à s'extraire de l'apesanteur.
On m'a appelé Éole. Je suis posé dans le parc du château d'Arminvilliers, propriété de Madame Isaac Perrer, tel un bateau qui flotte sur l'onde. La rosée matinale a, en effet, laissé sur l'herbe un tapis argenté qui donne au parc des faux airs de lac alpin. Par cette fraîche journée du mois d'octobre, j'attends patiemment mon maître et concepteur, Clément Adair. Ayant fait fortune dans le déploiement d'un réseau téléphonique, cet homme se consacre au développement des engins volants, motorisés, que l'on appelle trivialement les plus lourds que l'air. Mais lorsqu'il débute ses recherches, tous ceux qui s'occupent de navigation aérienne sont encore traités d'utopistes. Des savants, chiffres à l'appui, proclame partout que l'aviation est impossible et que l'homme ne volera jamais. Il est vrai que, depuis le premier vol des frères de Montgolfier, les scientifiques sont convaincus que seul le gaz, plus léger que l'air, permet à une machine de s'élever dans les airs car le poids de l'ensemble est inférieur à celui de l'air déplacé. Pourtant, Clément Adair est certain qu'un engin d'un poids supérieur à l'air peut, sans l'aide d'un gaz léger, s'arracher du sol par une force mécanique qui doit être supérieure à la différence des deux poids. Fort de cette hypothèse, en 1882, il s'emploie à fabriquer des oiseaux volants. C'est ainsi que je suis né. Pour cela, il observe attentivement des chauves-souris roussettes qu'il achète à prix d'or et qu'il fait voler dans une volière de son jardin parisien. Mon nom de famille est Avion, un terme emprunté au latin avis, qui désigne les oiseaux. Et mon prénom est Éole, le maître des vents dans la mythologie grecque. Sans doute conscient qu'en voulant défier la pesanteur, Clément Adair bouleverse l'équilibre mis en place par la nature. Il décide donc de m'affubler d'un nom hellénique pour s'attirer les faveurs des cieux. Je ressemble à une chauve-souris géante dont l'envergure dépasse les 14 mètres. Mes deux ailes sont articulées par une armature, recouverte d'une soie élastique, imperméable. Pour me propulser dans les airs, Clément Adair imagine et fait construire un petit moteur à vapeur qui développe deux couples de cylindres de 20 chevaux. Ce moteur, qui ne pèse que 50 kg, est alimenté par une chaudière à tube pourvue d'un brûleur à alcool. Cette mécanique entraîne une hélice à quatre pales en barbe de bambou qui imite des plumes. Le pilote, placé à l'arrière, peut actionner la puissance du moteur avec un levier et l'incidence des ailes avec des manivelles. Avec mon pilote, mon poids n'excède pas 300 kg. Mes pièces de charpente qui sont creuses sont composées de fibres de bois et de bambou, plus légères. À certains endroits, pour supporter les charges ou les contraintes du vol, elles sont garnies de moelles de sureau, de liège ou de mastic. Le 19 avril 1890, j'ai officiellement un brevet dont l'intitulé exact est « Un appareil ailé pour la navigation aérienne dénommé avion ». Je suis construit dans le plus grand secret dans un atelier parisien de la rue Pajou, dans le 16e arrondissement. Lorsque mon père se décide, enfin, à mener sa première expérience de vol, je suis démonté, puis conduit au château d'Arminvilliers. Avec mille précautions, les mécaniciens me posent sur la pelouse du parc, transformée pour l'occasion par des jardiniers en une piste longue de 200 mètres. Nous sommes le 9 octobre 1890. Il est 16 heures. Mon petit moteur fume, prêt à donner toute sa puissance. Clément Ader s'approche de moi et s'installe. Je ressens toute son anxiété, mais il semble satisfait. À plusieurs reprises, il fait timidement des allers-retours à faible pression d'un bout à l'autre de la piste. Les traces de mes trois roues sont très profondes, au départ et à l'arrivée, mais beaucoup moins au milieu du parcours. Pour Clément Ader, la démonstration n'est cependant pas encore complète. Il fait appel à toute sa hardiesse, en même temps qu'à sa prudence. Son appréhension est extrême, car son esprit est constamment hanté par cette piste de 200 mètres qu'il ne me faut pas dépasser, sous peine d'aller me précipiter dans les arbres. Avant de tenter un ultime vol, Ader poste, vers le milieu du parcours, Vallier et Espinosa, deux contre-maîtres, pour apprécier et témoigner de la hauteur du soulèvement. Enfin revenu au point de départ, Ader se prépare à partir, en donnant au moteur presque toute son énergie. Je m'avance à vive allure. Les soubresauts des roues sur le sol cessent presque aussitôt, et pendant quelques secondes, je me trouve suspendu à 20 cm du sol dans une sorte d'aise indéfinissable. Mais la fin de la piste est trop près et n'en permet pas davantage. Ader stoppe tout de suite le moteur et je reprends contact avec le sol, 50 mètres plus loin. À l'issue de cette expérience, je peux affirmer qu'un plus lourd que l'air perdit terre pour la première fois au monde avec la seule ressource de sa force motrice. Pour marquer l'instant, Ader demande à un contremaître d'enfoncer dans la terre des blocs de charbon à l'endroit précis où je me suis élevé. Madame Emmerich, invitée de la propriétaire du château et deux jardiniers, Boursin et Seguin, témoigne que j'ai bien décollé du sol et parcouru quelques mètres au-dessus du terrain. Après cette réussite, Ader fabrique deux autres avions, Zéphyr et Aquilon. Cependant, aujourd'hui, bon nombre de scientifiques, de passionnés d'aviation, doutent de mon premier exploit aérien. L'erreur sans doute de Clément Ader, outre son caractère difficile, est sans nul doute de travailler dans le plus grand secret, de peur que des espions ne s'emparent de son travail pour l'offrir à une puissance ennemie. Il se méfie de tout et de tout le monde. Mais il sait que l'aviation armée peut sauver la France. Et après notre vol, Clément Ader affirme haut et fort « sera maître du monde celui qui sera maître de l'air ».